Bien mangé, bien dormi, bien, tout le monde est en forme. Oui. Dimanche matin, ok, dites la vérité là. À peu près, hein? Ouais, ça a assez bien été. Donc oui, j'ai le privilège de vous présenter une petite méditation ce matin pour chercher le cœur de Dieu pour les nations. C'est à travers des moments cruciaux dans l'histoire de la Bible qu'on va faire. Et mon but, c'est de vous brasser la cage un peu. Donc, pour faire ça, je dois vous donner un peu le background d'où je viens pour comment ce texte me dérange moi-même, d'accord? Parce que Jésus me dérange, il a le tour de dire des choses que, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord, donc il vient toujours me chercher. Donc, j'aimerais juste vous dire honnêtement d'où je viens, pour quand ça brasse un peu dans le texte biblique, pour dire, je suis aussi devant ce texte comme vous, pour être dérangé. D'accord? Donc, oui, je veux vous déranger, mais vous allez voir pourquoi je suis moi-même dérangé. Parce que je suis immigrant, moi. D'accord? Ah, peut-être, bon, pas le laser. Ça va pas avancer avec le laser. Hein? Peut-être avec ça, ça va aller mieux. Ah! Je suis né à Chicago. Et donc, je suis immigrant pour venir, on est venu au Canada en 83. Et ça, c'est une belle ville et que j'ai eu beaucoup de privilèges là de grandir dans la banlieue de tout ça avec toutes sortes de situations. Mais c'est pas toujours évident vivre à Chicago parce que ils ont passé par des moments difficiles. Ça, c'est 1968, juste après la mort de Dr. Martin Luther King. Donc, il y a eu des grandes émeutes, il y a une grande section de, qu'on appelle ça le South Side à Chicago, qui est majoritairement noir, qui a majoritairement brûlé dans ces difficultés-là. Mon père travaillait en centre-ville, puis parfois, mais je me rappelle une fois, pour une autre raison, à leur bureau pour dire, tout le monde part, on fait un corridor de policiers pour vous sortir de là parce que les émeutes sont les deux bords de votre bâtiment. Okay, donc, il était escorté littéralement par la police pour être en sécurité dans ce moment-là. Donc, j'ai grandi dans une ville, en anglais, c'est segregated, très séparé, très comme en Afrique du Sud, là, apartheid, sans savoir. J'étais juste dans une église majoritairement blanche, dans une école entièrement blanche, dans une communauté qu'on n'avait pas d'immigrants et tout ça, donc on avait toujours l'impression que c'est eux autres, quelque part, surtout en ville. Okay? Donc j'ai grandi dans ça, pour aller ensuite à l'école biblique en Caroline du Sud, qui est une population, Caroline du Sud comme État, c'est encore, la population est majoritairement noire, et avec quelques blancs ici et là, genre, et notre école biblique était toute blanche, et dans un quartier que la minute que tu sortais, tu étais en communauté noire.
OK.
Et il faut savoir qu'à l'époque que l'État de Caroline du Sud, c'était ça les drapeaux au-dessus de leur capitale. Le premier, c'est les États-Unis. Deuxième, c'est l'État. Troisième, c'est... Bars and bars, là, pour dire qu'ils étaient fiers pour être indépendants des États-Unis et surtout pour être... Une économie basée sur l'esclavage. Même l'école biblique, à l'époque, a trouvé un moyen de pas payer leur service le salaire minimum, qui veut dire que les femmes noires qui travaillaient dans nos cuisines pour servir à la cafétéria n'étaient pas payées salaire minimum parce que l'école biblique, au nom de leur statut biblique, a trouvé un moyen de pas être obligé de payer tout le monde le salaire minimum comme un OSBL. OK? Donc, il y avait comme un genre de racisme dans le système comme tel. Pour aller ensuite à Dallas Seminary, où que toute une belle ville, mais avec des super riches. J'étais dans la construction à l'époque, et on a fait des contrats pour des gens trop riches. C'était incroyable, le niveau de vie que certains vivaient. Peut-être à l'époque, vous avez vu la série télé Dallas et tout ça, mais les gens vivaient comme ça. Sauf que il y avait d'autres quartiers aussi, plutôt hispanophones, plutôt Ashkano. Et là, dans ce moment-là, on était, nous, dans un bloc d'appartement où, curieusement, ma belle-mère est venue du Maine pour visiter, elle avait peur de la grande ville et tout ça, ça doit être dangereux et tout ça. Effectivement, dans la première heure qu'elle est arrivée pour la toute première fois chez nous, dans notre appartement, la police a tué un gars à notre porte à l'entrée de notre appartement, en fusillade. Donc, bienvenue à Dallas, belle-mère, on est en sécurité, ok? Oui. Pour voir, non, on était dans un quartier assez rough, pour voir que même là, nous, en études bibliques, il y avait un problème multi-ethnique même à Dallas aussi, donc une autre place. Et pour moi, après, je suis retourné à mon église, je travaille pour Pasteur Jeunesse, comme Pasteur Jeunesse à mon église à la banlieue de Chicago. Et donc, une de nos activités comme jeunesse, j'ai organisé une sortie à un des grands musées en centre-ville. Vous voyez, ça c'est le lac Michigan derrière, donc on est au cœur de la ville. Et j'ai voulu, au lieu de juste conduire le bus et aller au musée comme ça, je dis, garde, prenons le transport en commun, parce que les jeunes ne connaissent pas, leurs parents le prennent tout le temps à aller en centre-ville, mais les jeunes le connaissent moins. Donc, on va prendre le train plus le elevated, le métro de Chicago. Donc, je l'ai pris moi-même en préparation de ce voyage-là. J'ai juste fait comme un essai de voir si tout allait fonctionner. Donc, je suis dans le métro comme ça, à 10h le matin, en essayant de me rendre au musée, voir comment ça marche. Et il n'y avait pas grand monde, c'était pas l'heure de pointe, donc le wagon était plutôt vide. Et je suis là, on roule, puis un vieux monsieur, noir, vient me voir pour dire, « Êtes-vous perdu? Are you lost? » Je dis, « Non, je m'en vais au Museum of Science and Industry, on va visiter là, je prépare ma sortie pour les jeunes. » Il dit, je vais vous accompagner jusque-là. Vous êtes en danger. Le Seigneur m'a donné un ange, genre. Et donc, j'ai dit, mais regarde, je viendrai la prochaine fois avec 30 jeunes. OK? Est-ce que c'est en sécurité? Il dit, 30? Oui, ça devrait aller, mais restez ensemble. Pasteur Jeunesse, OK? Pour ensuite venir au Québec où on n'a pas ce problème-là. OK? Il n'y a aucun racisme, aucune difficulté. Parce que là, mais pour dire, là, je blague pas. Quand on était, parce qu'on est venu comme immigrant, à l'époque, dans le début des années 80, tout le monde était super gentil envers des immigrants à l'époque. Là, sérieux, là. Mais pour notre expérience, en tout cas. On était bien accueillis par les deux gouvernements provincial et fédéral. On était bien accueillis par le système santé. On nous a donné un carte soleil comme quasiment tout de suite. Incroyable. Puis on a même payé pour nos tests médicaux pour avoir la carte. Cling, cling, c'est gratuit, mais on n'a pas encore de carte. Oh, bon, faites-vous-en pas. C'était incroyable comme accueil qui a changé depuis, évidemment. Et puis les voisins, puis la caisse populaire a été très patiente avec moi, qui savait pas comment ça fonctionnait. L'église locale, on allait à Chauveau à l'époque, avec un jeune enfant, un bébé de 9 mois, donc il y avait une pouponnière, donc on était comme bien accueillis, même on a fait des amitiés là, de ces gens-là, qu'on garde depuis, là. On les a vus, moi et mon épouse, une autre conférence récemment, puis j'ai eu leur fille comme étudiante à Parole de vie. Donc, c'est un accueil merveilleux, tout ça. Mais, évidemment, on a d'autres problèmes au Québec, comme on n'a pas toujours été très égal envers toutes les cultures, les autochtones. Ça, c'est les écoles pour les autochtones, qui crée maintenant beaucoup de difficultés pour les générations plus tard, et qui même nos jeunes vont vivre dans 3 semaines. On s'en va dans les communautés autochtones dans le Nord. On va vivre là pour 10 jours bientôt. Donc, on part le 24 mai. Et là, nos jeunes vont vivre un peu qu'est-ce que c'est de ces cultures-là, comment ils voient un peu les conséquences, les séquelles de traitements qu'ils ont eu dans le passé. Mais aussi, il y a d'autres choses. On peut même, c'est pas juste dans le Nord qu'on a ce problème-là. On peut avoir ce problème à Montréal ou Montréal-Nord. Encore, c'est 10 ans plus tard avec Philippe Villeneuve, mais c'est encore des conséquences des discussions en ville, quoi faire avec ça. Et si on est vraiment un peuple accueillant pour les immigrants, encore plus à Québec, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir les immigrants? Bref, on a un problème ici aussi. Mais je viens de ce background-là. J'ai grandi dans des places qui ont lutté avec les problématiques d'accueillir d'autres cultures. Donc, je viens moi-même pour être dérangé par le cœur de Dieu. Comment est-il? J'ai besoin de voir le cœur de Dieu. J'ai besoin de contempler le cœur de Dieu pour les nations. J'ai besoin de le comprendre. J'ai besoin de le saisir. J'ai besoin d'être mis au défi par son cœur pour toutes les nations. Parce que je viens d'un arrière-plan comme ça et je demande au Seigneur de m'ouvrir mon cœur avec vous ce matin. Donc, on va faire un survol de 30 000 pieds de texte biblique. On va quasiment faire l'histoire de la Bible en quelques événements. Donc, on m'a dit que ça finit à 2 heures en après-midi. C'est bien, j'apprécie ça. Benoît, vous êtes bien donner l'habitude de prêcher longtemps, donc j'apprécie la tradition, donc j'en profite. Donc non, mais on va faire ça juste en quelques tournants. Mais j'aimerais juste prendre avec les plus grandes évidences que quand Jésus donne les ordres pour l'Église, qu'on connaît par cœur, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On peut presque dire ça avec les yeux fermés. Mais l'idée dans ça, c'est que, comme vous savez, il y a 4 verbes, 4 mots d'action dans la phrase. Le premier, c'est « deuxième, c'est « faites ». Troisième, c'est « baptisant, baptiser ». Quatrième, c'est « enseigner ». OK? Mais là, dans la grammaire grecque, il y a un verbe principal et les 3 autres sont des participes qui sont rattachés. Pour dire, c'est lequel qui est le verbe principal? J'attends la... C'est quoi la bonne réponse? Ah, c'est, oui, faites des disciples. Faites des disciples. Ah, si je peux exagérer un peu la grammaire, ça serait en allant, faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant et en les enseignant. OK? Verbe principal, faites des disciples. OK? Ça, c'est pourquoi vous avez comme mandat et comme discussion continue dans votre Église. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus intentionnel dans la façon qu'on fait des disciples? C'est le verbe principal. C'est le mot d'action de qu'est-ce que l'Église doit faire pour suivre le commandement de Jésus, les mots d'ordre de Jésus. Faisons des disciples, OK? En allant, en baptisant, puis en enseignant, d'accord? Mais là, on fait des disciples de qui? De toutes les nations, OK? Mais là, ma question pour vous, c'est quoi nation? Quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? On a tendance à penser qu'une nation, c'est quelque chose sur une carte, OK? On pense territoire, c'est une nation. Mais quand on se promène à Montréal, on voit qu'il y a des quartiers très différents l'un de l'autre, comme Montréal-Nord est différent des autres places comme de Cartierville ou de West Island ou de places au plateau Montréal où il y a juste des profs d'UQAM. Il y a toutes sortes de places différentes à Montréal et ça se voit. OK, juste l'autre bord de la rue. Oh, on vient de changer, là. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est en Maisonneuve. Donc, c'est un quartier tout à fait différent. OK, donc, l'idée d'une nation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une nation? Mais, dans le texte biblique, la façon que le texte que Jésus parle, c'est de faire de toutes les nations, Le mot en grec, les mots en grec, c'est pantata ethne, toutes les nations. Voyez-vous le mot ethne? Ça vous fait penser à quoi? Un groupe ethnique. OK? Il parle pas de la carte. Il parle pas d'Angola. Il parle de les groupes ethniques. Donc, c'est quoi ça? Donc, il y a comme deux définitions qui jouent dans la, avec notre mot nation. Le mot de la carte en tant qu'entité politique, la nation qui est un concept né de la construction des grands États européens, surtout quand la carte a été découpée après la Première Guerre mondiale par les vainqueurs français et anglais. Là, ils ont découpé les sections de Moyen-Orient et de l'Afrique et partout pour dire hey, « ça va être une nation » sans respecter les langues ou les groupes ethniques ou whatever, ils ont mis tout le monde ensemble, donc débrouillez-vous. OK? Donc, c'est une communauté caractérisée par un territoire organisé en état gouvernemental. Mais c'est pas ça que de quoi Jésus parlait. Il parlait de la deuxième définition. Une nation est une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique et religieuse. C'est un groupe de personnes. Donc, on peut avoir une nation un peu n'importe où quand il y a un groupe de personnes qui s'unit autour de ça. OK. Donc, pour voir le cœur de Dieu pour ces nations-là, desquelles on est supposé, on est commandé de faire des disciples, juste la question, mais d'où viennent les nations? Qui a eu l'idée de faire des nations? Ils ont commencé quand, les nations? Mais à la création, il y en avait combien? Une. Tout le monde parlait la même langue. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est uni. Quand est-ce que les nations commencent? Tour de Babel. OK, on est en Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue, notre définition d'une nation, et les mêmes mots. Ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel dit, les voici qui forment un seul peuple, une nation, et que tous ont une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Qui a eu l'idée des nations au pluriel? Ça vient de Dieu. Parce que la tour de Babel était un genre d'acte de défi délibéré, l'humanité organisée contre Dieu, et Dieu dit non, 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 vous n'allez pas faire ça. J'ai une solution pour vous. Vous n'allez plus comprendre, plus rien comprendre. Donc, ma question pour vous, ce geste-là de la part de Dieu, de mettre la confusion dans les gens, dans leur langue, entre eux, mais ça veut dire que Dieu a comme, et là, j'essaie d'imaginer, là, comment ça a marché. Il a comme pesé sur le software, là, sur le logiciel de tout le monde, pour dire, maintenant, c'est babylonien, maintenant, c'est une langue indienne. Maintenant, c'est du chinois. Maintenant, c'est. Imaginez que Dieu peut faire ça, cling, et les faire regrouper par leur langue. Juste, comment il peut faire ça? C'était quel Dieu merveilleux? L'autre, juste prenons le Nouveau Testament, quand Jésus fait un miracle avec quelqu'un qui a jamais parlé, un sourd-muet, qui a jamais parlé. Et Jésus le guérit. Qu'est-ce que la personne fait? Il crie à haute voix la gloire de Dieu. Minute. Où est-ce qu'il a eu ces mots-là? Où est-ce qu'il a appris? Mais normalement, ça prend un enfant qui a toutes ses capacités. Ça prend combien de temps avant qu'il crie à haute voix les mots qui ont du sens? Une bonne année, sinon plus. OK, là, Jésus touche le software de la personne pour leur donner tout le vocabulaire adulte pour qu'il parle. Donc, ça a l'air qu'on a un Dieu qui a pas peur de, quand c'est le temps, OK, là, on va faire des œufs avec ça. OK, on va mettre la confusion chez ces gens-là. Donc, vous êtes avec, okay. Donc, Dieu a dispatché toutes les langues. Assez intéressant. Mais, ma question pour vous, c'était-tu une punition ou c'était-tu une grâce pour Dieu d'avoir fait ça? OK, pensez-y. Combien vont dire que c'est un jugement que Dieu a fait ça? J'ai quelques votes. On est baptiste, là. On a le droit de voter, là. OK? OK? Et on a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. C'est une église ouverte, là. C'est bien. OK? C'est un jugement. Expliquez-moi comment c'est un jugement. Pourquoi vous voyez ça comme un jugement? Pour faire la division, pour dire, arrêtez-moi ça. Ça se fait plus. Amusez-vous. Attends, on va avoir du fun avec. Donc, ils sont tous mélangés. Jugement, vous n'allez plus faire le tour de Babel. Jugement. Incapable de continuer. Confusion totale. Jugement. On met un quoi sur ça? Combien de vous comment vous voyez ça comme une grâce? Ah, même, OK. Mais comment c'est une grâce? Quelqu'un ici, vous êtes alerte de ce côté-ci, je pense aussi. Pourquoi c'est une grâce? Ben, ils sont dispersés. Dieu les a arrêtés de continuer dans leur péché. Il les a rendus incapables de foncer dans leur péché. Il les a arrêtés. C'est un genre de jugement, mais c'est aussi une forme de grâce. De dire, oh, ça va vous faire mal. Si vous continuez de même, là, ça va finir mal. Je vous arrête là avant que ça aille plus loin. C'est une grâce. OK? D'accord. Donc, on voit le cœur de Dieu même dans la création des nations. Donc, Dieu a séparé l'unité de la population humaine qui s'est organisée pour le défier comme une intervention de sa grâce. Donc, c'est une punition, mais c'est une aide en même temps. Donc, après la division des peuples, c'est quoi le plan de match? On est en Genèse 11, hein, quand Dieu a séparé tout le monde. Maintenant, Dieu est en train d'avoir créé plusieurs nations. Qu'est-ce qu'il fait Genèse 12? Je ferai de toi, il parle à qui? Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Avez-vous vu le jeu de mots dans ça, qu'il crée des nations, Genèse 11, en dispersion. Et là, il dit, OK, Dieu prend pas panique, là, il dit, OK, là, de toutes ces nations-là, je vais en faire une qui va les rejoindre, les autres. Voyez-vous? Et en Genèse 18, il dit, Abraham deviendra certainement une nation, une grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. L'idée d'en avoir créé une était pour aller rejoindre et bénir les autres. Donc, il y a toute une réflexion chez les théologiens, avec Walt Kaiser dans la mission de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment Israël était une lumière aux nations pour tout le monde. Et puis, ça continue dans le Nouveau Testament. La mission de Dieu a atteint toutes les nations. Donc, l'idée de la grande mission qu'on a vue en Matthieu 28. Mais là, il y a un chapitre dans ce livre-là. Curieux, parce qu'il y a un chapitre qui commence avec la période intertestamentaire. C'est les 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et ça dit ceci. Pendant la période entre les deux testaments, le processus par lequel les nations ont été attirées au Dieu d'Israël était informel, personnel, relationnel et extrêmement stratégique. Ça me rappelle de ce que je vois dans votre église. Là. C'est bien... informel, personnel, relationnel, stratégique, c'est des synagogues parsemées à travers le monde connu, ont été des centres de recherche de Dieu pour toutes les nations. Sans budget, sans bâtiment, il y avait juste les rouleaux du texte de l'Ancien Testament et les gens qui voulaient se regrouper pour les lire et prier. Genre, dans le texte en anglais, c'est « The synagogue était des God-seeker centers ». C'était les places où les gens pouvaient se réunir informellement, juifs ou pas juifs, pour écouter les textes bibliques pour dire c'est qui le Messie? Quand est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que je fais pour connaître Dieu? À travers le monde connu. OK? Donc Dieu était en train de travailler pour attirer les gens à lui. Et peut-être le livre le plus accessible dans cette foulée-là, ce serait de John Piper, Que les nations se réjouissent. Je ne sais pas si vous l'avez ici, mais c'est très encourageant pour voir le big picture de qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers l'histoire du monde pour attirer les gens à lui de tous les temps. Donc, l'histoire de l'humanité est une histoire du cœur de Dieu et son cœur pour les nations. Mais qu'est-ce qui se passe au début de l'Église? Donc, quand on voit en acte 2, un autre moment clé dans ce temps-là, on voit comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue. C'est Pierre qui prêche, OK? Que c'est Jésus qui est ressuscité. Et les gens sont étonnés d'entendre dans chacun de notre propre langue, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de Pont, d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, les résidents venus de Rome, juifs de naissance et par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, encore, Dieu joue avec le software, là. Il est encore de regarde, je suis encore capable de faire ça. Et si on continue, là. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, c'est quoi le contraste entre Babel et Pentecôte? Qu'est-ce qui se passe? À Babel, Dieu est en train de dire, divisez-vous, parce que vous étiez unis contre moi, et vous allez vivre en nations séparées, pour écouter la nation d'Israël, pour comment me connaître. Okay? Mais maintenant, à la Pentecôte, qu'est-ce qui est en train de se passer? Unifiez-vous autour de quoi? Autour de qui? Jésus ressuscité. Autour de la proclamation de l'Évangile. Unifiez-vous de toutes les langues, de toutes les cultures et tout ça. Devant Jésus, vous êtes tous unis, même si vous avez encore vos propres langues et tout ça. Donc, bonne nouvelle, Google Translate ne peut pas unir les nations. OK? Pas unir les nations. C'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ et la transformation au Saint-Esprit qui nous unit. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui nous unit. Oui, on peut se comprendre des mots par Google Translate, mais ce n'est pas l'unité chez les humains à cause de ça. On a plus de moyens de communication qu'on n'a jamais eu dans la vie. Est-ce qu'on a plus de paix dans le monde? Non. Donc, ce n'est pas Google Translate qui va faire, c'est les vies transformées par Dieu qui s'unissent dans l'Église. Donc, là, curieusement, j'ai trouvé un livre très intéressant de Rodney Stark, qui est un sociologue pas chrétien, mais qui observe que le christianisme identifie plusieurs facteurs qui ont différencié les chrétiens de la société corrompue et désespérée de l'Empire romain. L'hypothèse de ce livre-là, c'est que la société romaine, à l'époque, juste après Jésus, la population romaine est en déclin. La culture comme telle est en déchéance. Curieusement, de ce catastrophe-là, monte l'Église primitive. Et il, comme sociologue, Rodney Stark dit, pourquoi? Pourquoi l'Église a grandi dans les conditions que tout le reste de la société était en décroissance. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Et son hypothèse, c'est, ça doit être, pas un chrétien là, ça doit être les paroles que Jésus a dit. Ça doit être ses valeurs, ça doit être ses enseignements, ça doit être les choses que Jésus a dit que personne d'autre à Rome pouvait dire ou concevoir. Donc, il va dire, par exemple, dans la vie urbaine cruellement dominée par une logique d'exclusion et d'inégalité des cultures non romaines, les chrétiens ont accueilli des gens de toutes les cultures et toutes les strates socio-économiques. L'Église était une place inclusive pour aimer ces gens, pour les aider, quand la culture romaine était pour les exclure. Rodney Stark dit, ça va faire que le groupe va grandir. Chaque chapitre, il y a d'autres thèmes de comment l'Église avait des valeurs à contre-courant des valeurs romaines. La santé, la mort, le rôle de la femme, la famille, l'économie, qu'est-ce qu'on fait pour contre les persécutions. L'Église était à contre-courant et avec ça, avec ces valeurs-là, qui sont clairement viennent clairement de Jésus, l'Église a grandi en nombre et en santé. Quand la ville de Rome était en catastrophe, était en décroissance. Donc, c'est clair, Jésus a dit à ceux-ci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns vers les autres. Je vois ça ici entre vous, je m'en réjouis, et quand il y a l'amour, les gens veulent être inclus dans cet amour-là. » Donc, ça finira où ce projet de bénir les nations? Encore, fin du livre, c'est quoi le endgame là, dans l'histoire de la Bible? Apocalypse 5, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Il chante à Jésus. « Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et si on a manqué ça, ça continue en Apocalypse 7. « Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. » C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Si on a manqué l'idée, là. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et de feuilles de palmier à la main, et ils ornaient, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est qui rend gloire à Jésus sur le trône? Toutes les nations. Quelle langue est-ce qu'il parle? Toutes les langues. Toutes les langues sont là. Toutes les nations sont là. Toutes les tribus sont là. Ils n'ont pas été juste mis en crème glacée vanille. Là. Toutes les saveurs sont là. Tous les styles de musique sont là. Tout ce que vous voulez, là. Couleur de peau, accent, langue, façon d'élever les enfants, tout ça est au ciel devant le Seigneur et Dieu s'en réjouit. Regarde toute cette diversité-là. Regarde tous ces peuples-là. Ils sont très diversifiés, très riches en variété et unis en adoration de mon Fils Jésus-Christ. Voyez-vous là? C'est ça le but de l'histoire de la planète. OK? Donc, ce qui a commencé comme un geste de rébellion de la part des êtres humains autour de Babel va finir par être un sujet de grande joie pour Dieu. La multitude et la diversité des nations unies en Jésus-Christ. Quelle joie! OK? Donc, je peux dire que la diversité et la réconciliation de ces gens divers fait partie de l'ADN de l'Évangile même. C'est un aspect de l'Évangile, mais on le souligne pas assez, que la réconciliation des gens éloignés est un début de la croix de Jésus. Souvenez-vous, dit Paul en Éphésiens 2, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Bon, moi, j'ai souligné un peu les mots qui sont comme des gens du dehors, des gens qu'on n'a pas droit, les gens qui sont, ils sont différents de nous. Ah non, on veut les garder. Non. Ok, voyez-vous, c'est ancré dans ce texte-là. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances dans la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, moi j'ai le chair de poule de dire cette phrase-là. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Ça parle juif, non-juif, mais c'est l'idée, avec le cœur de Dieu, pour toutes les nations, l'idée, c'est la croix de Jésus a été faite pour nous donner la grâce pour accueillir les uns les autres, tels que nous sommes, de chacun de notre culture. C'est spécial, ça. Jésus est mort pour nous donner la chance d'accueillir des gens qui sont différents de nous, comme conséquence de ce message-là. Mais bon, c'est bien beau, c'est big, là. Ouais, mais Trois-Rivières, là. Come on, qu'est-ce qu'on va faire pour vrai à Trois-Rivières? OK, on est bien. OK, comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais allons voir Trois-Rivières, Stats Canada. Ah, Trois-Rivières, dans le recensement de 2016, il y avait 107 000 personnes qui parlaient français de langue maternelle, un autre 1 000 anglais, un autre 150 langues autochtones et un autre 3 000 d'autres langues que Canada va appeler non officielles, mais ça veut dire qu'elles viennent d'une autre langue majoritaire ailleurs. Parce que c'est pas une langue non officielle, c'est juste une langue qu'au Canada, vous comprenez. Donc, chez les langues autochtones, vous avez, Trois-Rivières, 140 personnes qui parlent Atikamekw. OK? Plus 5 Innu, 5 Cree. Mais regardez bien ça. Les langues non officielles maternelles à Trois-Rivières, c'est quoi la langue la plus parlée non officielle à Trois-Rivières, pensez-vous? Espagnol, c'est bien. Ensuite, arabe. Ensuite, swahili, mandarin, portugais, créole, grec, vietnamien, berbère, rundi-kurundi, roumain, allemand, italien, russe, wolof, cantonais, persan farsi, lingala, khmer, tagalog, néerlandais, les langues de signes. OK? Allô? Nice. OK? Allô, ça veut dire que on a à Trois-Rivières, c'est juste le début là, ok, c'est 2016. 5 ans plus tard, est-ce que ces nombres vont être en augmentation? Ouais, c'est juste le début, ok. Sans parler juste à travers la province des réfugiés syriens qui sont venus en grand nombre récemment. Donc, avec les 11 000, il y avait 3 000 qui ont été reçus par l'État et 9 000 qui ont été parrainés. Parrainés par qui? Par des gens qui ont été généreux, souvent par d'autres églises. OK? Donc, oui, et ça c'était une guerre. Est-ce que c'est la seule guerre? Mais c'est grande et catastrophique comme guerre, mais il y en a d'autres aussi. Il y en aura d'autres aussi. Ça veut dire qu'il y aura d'autres immigrants qui viennent au Québec. Et d'après moi, si on va refléter le cœur de Dieu, ça va être quoi? Donc, juste pour... OK, on recule, on revient un peu plus haut, juste pour voir toute la planète en même temps. Mondialement, seulement 22% du mouvement évangélique mondial est de souche nord-européenne. Ça veut dire que des Blancs qui sont de nord d'Europe et en Amérique du Nord. 22%. Qui veut dire que le mouvement évangélique mondial est majoritairement africain, latino et asiatique, présentement 78%, mais bientôt 80%, bientôt 85%, bientôt 80%. Et même les grandes conférences mondiales chez les évangéliques essaient de refléter ces pourcentages-là. La dernière conférence de Lausanne en Afrique du Sud, je pense que c'était en 2010, ils ont demandé que la foule, les délégués, viennent avec les mêmes proportions de pourcentage de croyants évangéliques à travers le monde. Donc, 80% des délégués étaient africains, latino-asiatiques, et juste 22% des délégués étaient des Européens ou Nord-Américains. Imaginez la salle. Mais c'était le monde, ça. Et je vois ça présentement à Parole de Vie. Parce que notre école principale, c'était à New York, à Schoon Lake. Mais là, ils viennent d'ajouter, parce qu'ils veulent faire de l'accréditation à plusieurs écoles en même temps, ils viennent d'ajouter deux écoles au Brésil. Ça, c'est pourquoi j'ai pris cette photo-là comme style. Les deux écoles au Brésil sont plus grandes, plus vieilles, plus d'années que l'école à New York. New York, comme chef, supposément, est en train de négocier avec les deux écoles au Brésil comment ces écoles doivent faire. Et les écoles au Brésil ont dit, OK, on va y penser. Mais d'ailleurs, on a 3 fois plus d'étudiants que vous et on est 50 ans plus vieux que vous. Vous allez nous dire quoi faire, vous? Anyway, c'est pas exactement la conversation, mais c'est un peu exagéré. Mais quand même, vous voyez, la majorité du mouvement évangélique n'est pas chez les Européens. OK? Mais c'est une grâce. Ça veut dire que Dieu touche à travers le monde. Il est à l'œuvre. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'aimerais juste commencer à atterrir l'avion un peu tranquillement. Si je peux faire les grandes idées centrales qu'on a eues ce matin, c'est que Dieu a créé une nation, un groupe ethnique, par sa grâce pour sa gloire, OK? Et que cette diversité interculturelle, par exprès, est frustrante pour tous les projets de l'humanité. Dieu a voulu frustrer le monde. Prenez un train en Europe où la langue change à toutes les trois quarts d'heure. OK? Vous allez dire, mais moi, j'ai fait ça une fois-ci. Seigneur, le miracle de Babel est encore vrai. Wow! C'est spécial! On est combien d'années plus tard et il y a encore la même confusion. Et vous avez certainement été dans une situation où vous comprenez pas la langue de quelqu'un d'autre et c'est une situation critique. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est frustrant. Oui? Bienvenue au club. Ça fait partie de la game. Troisième, l'évangile est le message et l'église est le véhicule pour la réconciliation des nations. Croyez-vous ça? Est-ce que vous avez le droit de dire un amen à des célébaptistes? On va essayer. OK. Ça va être lent un peu, je comprends, là, mais on va essayer. OK, je vais lire la phrase, puis vous dites amen. OK, donc, on va faire semblant d'être dans le game. OK, d'accord. 1, 2, 3. L'évangile est le message et l'église est le véhicule pour la réconciliation des nations. OK, c'est bien. OK, on peut pratiquer là. OK. Est-ce que nous croyons ça vraiment? Avec tous les efforts que les gens vont faire, avec toute la difficulté qu'on va voir dans notre province pour accueillir des gens d'autres cultures, la meilleure place pour le faire, c'est l'église locale. Le meilleur message pour ça, c'est la grâce de Dieu par son Fils Jésus mort pour nous. C'est la meilleure façon, c'est le plan de Dieu pour l'humanité de faire cette réconciliation-là. Donc, pour nos émotions, de un, c'est frustrant pour tout le monde, ce plan-là, parce que ça veut dire qu'on se comprend pas, il y a toujours des moments awkward, là, tout le temps. OK? Chez nous, je suis avec une équipe de missionnaires, on a parfois des blagues. Le pire faux pas que tu as fait culturellement dans un autre pays. Oh boy, on en a fait. Oh boy. OK, anyway. Et nous faisons partie d'une histoire plus grande que nous. Ce n'est pas juste la petite vie. Seigneur nous demande, comme Québécois, d'ouvrir nos horizons pour voir que Dieu est à l'œuvre à travers le monde et que le monde vient ici. Okay? Et troisième, le processus demande de l'empathie et de la compassion qu'on n'a pas naturellement. J'ai pas grandi avec ça, moi. J'apprends ça. Mais curieusement, quand je relis la Bible, je le découvre partout. Exode 23. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger parce que vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. N'oubliez jamais que ça a l'air de quoi de ne pas savoir comment ça fonctionne. De ne pas être dans le groupe. De ne pas être accueilli. De ne pas être habillé comme les autres. De ne pas parler comme les autres. Que la minute que tu ouvres la bouche, les gens savent, tu viens d'où, toi? C'est quoi ça? J'ai grandi, on a appris notre français à Québec avec M. Gazdic à l'époque, et M. Gazdic disait, j'ai hâte d'être au ciel, il est au ciel maintenant, mais j'ai hâte d'être au ciel parce que là, je serai chez moi. Parce que toute ma vie adulte, la minute que j'ouvre ma bouche, j'annonce que je viens pas d'ici. Et c'est plate. OK? N'oubliez pas ça! Ah ouais! N'oubliez pas ça! Oui, il a annoncé qu'il venait pas. D'accord. Mais moi aussi, là. Mais n'oubliez pas ça. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui est nouveau ici? Combien de places ils sont comme tout le temps rappelés que tu viens pas ici, tu viens pas d'ici, tu viens... C'est tannant, ça! Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger parce que vous avez été des étrangers. Donc, les défis pour les immigrants au Canada. Présentement, c'est un petit clip de Amnesty International. Il a dit, le Canada ne se classe qu'au 15e rang parmi 44 pays industrialisés pour le nombre de demandeurs d'asile accueillis. Il y a très peu de personnes que le Canada accueille présentement. Au Canada, 54% des immigrants se disent chrétiens. 20% sans appartenance religieuse et 11% se disent musulmans. Quand nous disons présentement le mot immigrant ou surtout demandeur d'asile, ça doit être un musulman. C'est un terroriste. Dites-moi que vous ne pensez pas ça. OK? Les statistiques disent exactement le contraire. Quand nous disons quelqu'un qui demande l'asile, qui est en grande difficulté, il y a 54% des chances que c'est un chrétien qui cherche une place en sécurité, qui connaît déjà le Seigneur, mais il cherche une place pour vivre en paix, s'il vous plaît. Où est-ce que je peux aller? Est-ce que notre Église peut être une place comme ça? OK? D'autres, au Québec, en avril 2016, seulement 0,7% des gens adultes prestataires de programmes d'aide financière en dernier recours ont été des demandeurs d'asile. On a l'impression que les demandeurs d'asile vont sucer toutes les richesses de notre province, qu'on vive gratos sur notre générosité. Excusez, Amnesty International a fait les recherches eux-mêmes pour tout le monde qui recevait de l'argent de l'État, et 0,7% c'était des demandeurs d'asile. Ces gens-là veulent simplement trouver une place pour travailler. Honnêtement. Est-ce que l'Église peut être une place pour les accueillir? Le taux de reconnaissance des diplômés chez les immigrants est de moins de 15%. Ils viennent avec beaucoup de formation professionnelle et très peu de reconnaissance. Est-ce qu'une Église peut être une place qui les prend pour être des avocats, pour les encourager et trouver, cogner aux portes avec eux pour que ça soit reconnu? Le Devoir avait un article l'année passée. Sur la photo, une visite industrielle à Val-d'Or d'immigrants à la recherche d'un lieu où s'établir pour contribuer à la société québécoise. Quelqu'un peut nous laisser entrer, s'il vous plaît? OK. Et malheureusement, dans le même article, les Québécois craignent l'immigration plus que la pollution. Près de la moitié de la population québécoise est d'avis que l'immigration présente un grand, voire un très grand risque pour le Québec, indique un sondage commandé par le Centre interuniversitaire de recherche. Des immigrants, c'est pire que la pollution. Dites-moi que vous n'entendez pas ça. Dites-moi qu'on n'a pas peur que les effets néfastes si on inclut trop de monde à l'extérieur. Hein? Well, qu'est-ce qu'on fait? L'action. Demandez à Dieu, j'ai mis tout ça en bloc parce que c'est pas lequel va vous prendre, là. Demandez à Dieu d'élargir notre vision. Moi en premier, là, vous savez d'où je viens, là. D'élargir notre vision et notre cœur pour les gens venant de d'autres cultures que la nôtre. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre mes bras pour accueillir des gens d'autres cultures. Deuxième, sortir de notre routine, même dans la congrégation ici. Parce qu'on a, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais dans mon église, j'ai tendance à avoir un certain territoire où je m'installe, puis ce sont mes amis autour, puis toutes les connaissances, mais l'autre bord, là, je les connais un peu moins. Et surtout les nouveaux, surtout d'autres cultures. Est-ce possible de commencer, pas juste dans la communauté at large, mais de juste faire ça dans la salle ici, de commencer à dire, Seigneur, je veux commencer à connaître d'autres personnes dans notre propre congrégation pour les accueillir, pour développer encore plus de richesse de cette communauté, de cette réconciliation que tu veux, qui va être vécue au ciel, mais pourquoi pas dans cette salle ici? Okay? Et troisième, de sortir de notre zone de confort dans notre communauté. Mon père a été, il est avec le Seigneur maintenant, mais il a été soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, donc il était stationed, là, il était mis en Angleterre, en France, en Allemagne, puis pour passer par le Panama Canal, pour aller aux Philippines, pour aller au Japon. Il a fait tous des mois dans toutes ces places-là, donc c'est un chrétien dans tout ça. Il avait à cœur le monde. Et donc, quand j'ai grandi, banlieue de Chicago, on allait très souvent au resto ethnique en centre-ville de Chicago, où il n'y avait personne dans le restaurant qui parlait anglais. Le menu était dans une autre langue complètement. On commandait numéro 4 pour voir qu'est-ce que ça allait être. Et quelqu'un nous a servi numéro 4, puis on demande une explication, puis oh, OK, ça doit être ça. Puis on mange. OK? Mon père est un fan d'explorer d'autres cultures. OK? Donc, c'est un peu l'ADN de ma vie. Donc, c'est une autre culture. Oui, on a adressé ça. Est-ce qu'il y a moyen pour chacun de nous, à notre niveau, de sortir un peu de notre zone de confort pour dire, Seigneur, si on va passer l'éternité avec toutes ces cultures-là, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être en coûter quelques-unes? Pour explorer, pour apprécier ça. Si vous allez, si vous voulez aller plus loin spirituellement parlant, de voir qu'est-ce que Dieu fait à travers le monde, dans tous les peuples, il y a un livre, Operation World, qui prend tous les peuples par leur profil spirituel. Et où sont-ils avec l'Évangile? Ça, c'est un livre à lire à genoux pour commencer à prier pour des peuples non atteints. Et il y a d'autres ressources live là sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur qu'est-ce que Dieu fait dans toutes les cultures à travers le monde. Ça, c'est très haut, mais peut-être plus terre à terre. Ici, à Trois-Rivières, il y a un organisme qui spécialise en accueil des gens venant d'autres cultures. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'eux? Pas pour faire exactement la même chose qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'eux pour dire, mais là, si eux, ils le font, qu'est-ce que notre Église peut être? Qu'est-ce que notre Église peut devenir? Certainement, Seigneur, on veut refléter ton cœur pour les nations. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as aimés le premier. Tu es venu dans un monde qui te rejetait. Et tu nous as aimés quand même. Merci Seigneur d'avoir fait ce pas-là, interculturel, et de nous aimer tel qu'on était. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour cette église, je prie pour la communauté de croyants ici à Trois-Rivières, qu'on puisse devenir des gens qui reflètent qui tu es, ton amour pour eux, et qu'on puisse commencer, mais aller plus loin, à goûter à cet amour-là qui sera pour l'éternité dans ta présence, dans toutes les langues, toutes les cultures. Merci Seigneur pour ce privilège. Encourage-nous là-dedans. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Okay.